monsieur.
Bonjour, je suis le druide Christophe.
Vous êtes le druide?
Oui.
C'est vous qui fabriquez la potion?
Tout à fait.
Je suis assez surpris. Comment se fait-il que ceci n'est pas un chaudron?
Oui, en effet, nous ne sommes pas des colois réfractaires. Nous vivons avec notre temps et nous sommes passés à l'inox.
Mais alors, dites-moi tout. Quel est donc le secret de votre potion?
Une bonne dose de taxe, beaucoup de mépris, quelques miettes du gouvernement et une carotte.
Macron!
Par Macronix, qui vois-je? C'est le président de la République!
Merci Christophe et bien le bonjour à ce petit village de Gaulois réfractaires irréductibles de Bretagne. Bonne introduction pour nous intéresser aux Gilets jaunes, un petit reportage complètement dingue qui pourrait commencer par « Chers Français, cyniques et fainéants, vous qui traversez la rue sans trouver de boulot, Gaulois réfractaires au changement, qui coûtait un pognon dingue pour beaucoup illettrés ?» et dont certains déconnent. Je viens débattre avec vous. Ce pourrait être signé par Emmanuel Macron. Un petit reportage gilet jaune quand tout déconne en France, même le micro du reporter.
Your play, spark of fear is smoldering with ignorance and hate. Now it.
Radio Gilets jaunes sur le rond-point de Florac, qu'avez-vous à dire?
Je suis là par solidarité avec toutes ces personnes qui ont très difficile tous les mois, des fins de mois et entre autres. Et parce que je suis contre ce qu'on appelle aujourd'hui la République en marche, qu'on devrait appeler plutôt la dictature en marche.
Il n'y a que ça comme revendication, c'est les fins de mois difficiles et le gouvernement Macron, parce que il me semble moi que ce qui remonte, c'est un trop plein de plusieurs décennies peut-être.
Oui, ça c'est exact, mais de toute façon, on est arrivé à un moment où il faut absolument réagir parce que on va droit dans le mur au niveau social avec des fausses lois. Et si, quand on travaillera dans l'intérêt général de tout le monde, ça ira beaucoup mieux que des petits intérêts personnels et particuliers. Tous ces gens qui les manipulent, parce que j'ai un ami qui me disait dans le temps qu'il y avait 4 familles en Europe qui tiraient les ficelles des marionnettes des gouvernements, mais je commence à le croire. Parce que quand on voit comment ça tourne, vous n'avez plus rien à dire, vous n'avez qu'une assemblée nationale ici, comme vous dites, je crois, où ce sont des pantins qui disent oui à tout. Et ce qui est un peu dommage, c'est que la Terre nous réserve à tous des ressources, en veux-tu, en voilà, et on pourrait les partager. Mais avant qu'on y arrive, c'est comme disait Martin Luther King, « I had a dream », c'est un beau rêve. Parce que sincèrement, ça commence vraiment à bien faire.
Tout, vous saurez tout sur ces nantis, ceux qui sont là pour vous taxer. Le carburant, la CSG, ceux qui disent que pour vous soigner, certains hôpitaux doivent fermer. Tout, 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 vous saurez tout sur ces nantis, 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 nantis.
Alors, Radio Gilets Jaunes, il paraît qu'il y a un appel au rassemblement samedi prochain, c'est ça?
Oui, un appel au rassemblement tous les samedis, samedi prochain aussi, non? Je pense, le 19 janvier. Et puis, si le gouvernement, il comprend pas, le samedi d'après encore. Hein. Et puis s'il comprend toujours pas, le samedi d'après encore, hein. Jusqu'à ce qu'il comprenne et jusqu'à ce qu'il arrête de nous provoquer, de nous mépriser.
On parle de barricade ici, non?
On en parle, mais la première existence d'une barricade, c'est quand on commence à l'évoquer dans les têtes.
Bon, et est-ce que vous avez rencontré la ministre? Vous faites partie de la coordination lozérienne?
Moi, j'ai participé à des réunions de la coordination lozérienne, mais je ne suis pas mandaté pour parler en son nom, ni même je n'ai pas rencontré la ministre. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ce genre de rencontres, parce qu'on se fait plus ou moins, au bout du compte, instrumentaliser par les communicants des hommes ou les personnes à qui on s'adresse. Macron, il faut qu'il comprenne, c'est clair ce qu'on lui dit, il faut qu'il comprenne. S'il ne veut pas comprendre, c'est pas la peine de nous envoyer des sous-fifres pour nous tourner en bourrique et pour essayer de nous prendre pour des imbéciles, parce qu'on est des gens sensés, on sait ce qu'on veut et on sait jusqu'où on va aller pour obtenir ce qu'on veut.
Parce qu'il y a une technique chez toutes ces boîtes de communicants, c'est que lorsqu'il y a un problème, on prête l'oreille, mais on continue à faire ce qu'on fait d'habitude. Alors, est-ce que vous pensez que le gouvernement aujourd'hui fait un petit peu ça avec ses cahiers de doléances et Madame Buzyn qui se déplace sur le territoire pour écouter les gens?
Oui, c'est tout à fait ça. C'est une opération d'enfumage. Hein. Une opération d'enfumage pour essayer de faire croire qu'on nous écoute. Et en fait, ils nous écoutent, mais ils ne nous entendent pas. Et puis, ou on ne parle pas français, ou alors c'est eux qui ne veulent pas entendre. Mais il y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Hein.
Vous venez de Merueil, vous me dites qu'il y en a la moitié qui viennent sur Florac et une autre moitié qui viennent bloquer le péage du viaduc.
Oui, une partie, dont moi, on est venu à Florac, mais une partie de mes copains de Merueil, ils ont préféré pour aller au péage du viaduc de Millau sur le rond-point à Saint-Germain.
Bah, on bloque peut-être plus le capital en allant sur le viaduc de Millau que de venir à Florac, peut-être.
Peut-être qu'au viaduc de Millau, il touche Eiffage, c'est plus proche du nerf de la guerre hein, qu'ici, encore que, vous savez, il n'y a pas de petites actions. Hein. Ce qui compte, ce n'est pas la taille de l'action, c'est le nombre des actions. Plus il y a de foyers de résistance, mieux c'est.
Qu'est-ce que vous en pensez de Eiffage qui réclame un dédommagement pour tout l'argent perdu par rapport à ces blocages?
Du coup droit et des plumes.
Ça veut dire quoi, monde de merde? Sans être indiscret.
Je travaille il y a 35 ans pour te demander ce que ça veut dire, monde de merde. C'est pas que t'es indiscret. C'est juste que t'es un con. En disant monde de merde, j'ai voulu dire que le monde allait mal. C'est un cri de révolte que j'ai lancé à mes frères opprimés. Finissons-en avec la résignation et l'indifférence. Ouvrons les yeux. Partout l'injustice, le nationalisme, l'exclusion, ça me débête. T'as déjà entendu parler de l'hégémonie du grand capital?
Non.
Tu t'intéresses pas à la politique? Tu devrais. Il faut se mettre au travail. Afin de vaincre les fanachismes. C'est un concept à moi, ça dénonce à la fois les fascistes et les fanatiques.
Quand il taxe le fioul, qu'il taxe le gasoil, le Macron, il nous parle ravi de l'écologie, ce petit con. Mais quand ils ont voté le fameux budget écolo, amputé ils l'ont de 600 millions, ces salauds. Nous qui avons un peu la rage, on leur adressa tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire, Macron nous prend pour des cons. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, Macron nous prend pour des cons. Entre nous plus de controverses, il n'est pas notre président. Oligarque de la pire espèce, gigolo des 1%. Oligarque marque de la pire espèce, gigolo des 1%. Vous qui êtes payés avec nos deniers grassement, vous dites haut et fort, faites donc un effort, petites gens. Vous les députés, les petites salopes de Macron, qui avouez-le, prenez le peuple pour des cons. Méditez ce simple message d'un peuple qui a bien la rage. Le temps ne fait rien à l'affaire. Macron nous prend pour des cons. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, Macron nous prend pour des cons. Entre nous, plus de controverses. Il n'est pas notre président. Oligarque de la pire espèce, gigolo des 1%. Oligarque de la pire espèce, gigolo des 1%.
Je suis pas à l'aise devant un micro, bon, mais moi je suis là parce que y a tellement de choses qui me révoltent, tellement de choses et qui révoltent tout le monde, qu'en fait on sait même pas par où commencer, quoi, en fait. C'est quoi qui te révolte le plus? Ce qui me révolte le plus, c'est ce côté sécuritaire qu'on met toujours en avant. On dit « faites pas ci, vous n'êtes pas responsable de vos actes, vous faites n'importe quoi, papa, le gouvernement va s'occuper de votre sécurité », tout ça. Et tout ça sont des prétextes pour nous faire marcher dans le rang et puis pour rendre le travail de collecte de l'argent plus facile, simplement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, il n'y a pas que ça. Il y a l'écologie qui va pas du tout, mais personne ne s'en occupe. Il y a l'éducation, ça devient merdique, je trouve, moi, un petit peu. Il y a plein de choses. Il y a tout le service public qui fout le camp. Des mecs comme Macron qui vendent la SNCF qui ne leur appartient pas à leurs copains, alors que c'est la nôtre, quoi, au départ. C'est à nous, c'est un bien public, quoi. Et tout ça, ça fout le camp, quoi. Mais personne ne réagit parce que c'est tellement... Il y a tellement de scandales qu'on sait même pas par lequel commencer. Tout le monde est déboussolé. Ça va trop vite. On n'a plus le temps. Je pense qu'il faudrait... En fait, il faudrait changer carrément notre mode de vie occidental. Mais il faudrait qu'on arrête cette compétition aussi de l'énergie. Tous, il faudrait qu'il y ait vraiment une entente internationale sur les problèmes énergétiques. Et qu'on arrête de se tirer la bourre, quoi, à grands coups de pétrodollar, quoi, voilà. Et de moyens énergétiques démesurés pour arriver à pas grand chose finalement. Voilà, enfin je pense qu'il faudrait tout revoir, il faudrait vraiment en parler, quoi, voilà. Mais ça c'est pas possible tant qu'il y aura des mecs qui pensent qu'à leur copinage et à se faire du pognon entre eux, à s'échanger des choses et remplir leur carnet. Le reste, tant qu'il y aura des intérêts comme ça, là, ça pourra pas avancer, on pourra pas sortir de l'ornière, on pourra pas faire un système démocratique qui aille dans le bien commun, le bien de tout le monde.
Alors, les gilets jaunes, c'est une jacquerie ou une révolution?
Ah, je ne sais pas ce que c'est qu'une jacquerie, désolé. Mais je dirais que les gilets jaunes, c'est le début d'une... Je pense que c'est une prise de conscience. Enfin, c'est plus qu'une prise de conscience, ça fait longtemps que les gens ont conscience. Mais c'est le début d'une révolution, moi, je pense. J'espère, en tout cas. Voilà, j'espère.
En fait, oui, je pense que ce mouvement relève de la jacquerie. La première des grandes jacqueries, ça a été extrêmement violent, c'était en 1358, et il y avait à la fois les défaites militaires de Crécy, de Poitiers, les grandes compagnies qui dévastaient les campagnes, l'insécurité, la crise économique, et puis aussi une vague d'impôts. Et on a eu une vague de violence épouvantable, et ces mouvements, ensuite, ont connu des répétitions régulières dans l'histoire, sous Richelieu, sous la Fronde, et sous la Révolution. Donc je crois que nous avons affaire à une jacquerie avec cette spécificité que c'est la première jacquerie numérique. Et donc qu'est-ce que c'est qu'une jacquerie? Eh bien ce sont les citoyens de base qui, sans leader au départ, sans vrai projet, mais se mobilisent et se mobilisent pour protester, éventuellement par la violence. Dès l'ancien régime, il y avait les protestations contre la gabelle, contre les impôts. Pour l'instant, il n'y a pas d'organisation qui supporte ce mouvement. On verra s'il a une traduction électorale ensuite, mais pour l'instant, il n'est pas organisé. Il est le fruit de la fracture sociale, territoriale, non seulement du pays, mais de la nation française. Mais on n'a pas une France périphérique, on a des des France périphériques. Beaucoup de gens qui sont des vrais déshérités et qui sont en situation extrêmement, extrêmement précaire. Il faut être extrêmement prudent, mais je pense que de fait, c'est le fruit de ces fractures sociales et territoriales qui faisaient partie, j'allais dire, du mandat qui avait été donné par les électeurs à Emmanuel Macron pour traiter les maux du pays. Et il est clair que ce mal-là n'a absolument pas été pris en compte et que d'une certaine manière, la fracture entre les élites et un certain nombre de gens qui, en tout cas, se sentent comme le peuple, même si c'est peut-être réducteur, cette fracture n'a jamais été aussi nette.
Il pleut, il pleut, il pleut, rentre tes noirs moutons. Notre usine a fermé, disparu les patrons, envolé les machines au Maroc ou en Chine, et nous là comme des cons, délocalisation. Tu as cherché à faire croire, et y en a qui t'ont cru, que tu serais le sauveur des pauvres et des exclus, qu'on allait en finir avec tout ce gâchis, qu'aucun loup n'entrerait plus dans la bergerie. Il pleut, il pleut, il pleut, voici venir l'orage. Il pleut, il pleut, il pleut, dégage, 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 dégage. Tu as fait semblant d'entendre la colère et l'angoisse des métallos lorrains condamnés à la casse. Tu as baratiné aux quatre coins de France des milliers d'ouvriers sacrifiés d'avance, avec des jolis mots: égalité, justice, solidarité. Dans ton sac à malice, tu as soufflé des promesses sur les braises de l'espoir, mais tu les as trahies dès que tu as eu le pouvoir. Il pleut, il pleut, il pleut, et nous avons la rage. Il pleut, il pleut, il pleut, dégage, 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 dégage. Des sans-droits, des sans-voix, des damnés de la terre, des Roms désignés comme bouc émissaire, des clandestins errants aux marches du Sacré-Cœur, aux gamins foudroyés dans un transformateur. Regarde là cette France que tu as méprisée, celle des sans-papiers, précaires, handicapés, celle des suicidés, harcelés au turbin, forcés de trimer plus pour gagner toujours moins. Il pleut, il pleut, il pleut, tu peux plier bagages. Il pleut, il pleut, il pleut, dégage, 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 dégage. Allez, qu'ils s'en aillent tous, rentre tes noirs moutons, tes éminences grises et tes voyous patrons, les gardiens de ton ordre, les faillots de ta cour et les écrivaillons qui pondent tes discours. Ô ministres zélés, sinistres exécutants, ni oubli ni pardon pour la chasse aux enfants. Abat les lois racistes, abat les circulaires, les contrôles aux faciès pour remplir vos charters. Il pleut, il pleut, il pleut, y aura pas de rattrapage. Dégage, 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 dégage. Remballe ton triple A, ta dette et tes marchés, ta bourse et tes traders, tes parachutes dorés. Nous avons rêvé qu'un autre monde est possible, et nous n'acceptons pas d'être des invisibles. Car nous sommes le peuple, celui qui crée l'histoire, fils de 89, rebelles et communards, dont les insurrections ont forgé nos consciences. Un peuple qui se lève et entre en résistance. Il pleut, il pleut, il pleut, voici venir l'orage. Il pleut, il pleut, il pleut, tu peux plier bagages.
Voilà, on est le jeudi 10 janvier à Florac, on est dans l'entrée des locaux de Quad 9. Nous attendons Madame Buzyn qui a un peu de retard. Et là, je suis avec le comité d'accueil qu'on pourrait appeler le Gilet jaune.
Amnistie immédiate pour tous les gens condamnés suite aux manifestations des Gilets jaunes. Libération immédiate des prisonniers politiques du mouvement. Interdiction des flashballs, des grenades et des gaz spéciaux. Dissolution du Sénat et de l'Assemblée nationale. Contrôle technique gratuit pour les gens qui touchent moins de 2000 euros par mois. Fin de l'indemnité présidentielle à vie. Indemnité des élus politiques au SMIC ou au RSA.
Ah, monsieur le maire, justement, on est en pleine session d'interview.
Bonjour, tu vas bien ?
Bon, ben, t'as le gars de la préfecture qui vient d'arriver.
Vous avez été convoqué par madame la ministre ?
Ah, pas convoqué, non, c'est vrai que c'est un honneur de recevoir le ministre de la Santé, surtout qu'on a des choses à lui demander, parce que...
Christian Huguet, maire de la commune de Florac Trois-Rivières.
Et qu'est-ce que vous avez à lui demander ?
J'aimerais lui parler, le peu de temps que je pourrais lui parler, de notre hôpital, sur lequel on a un projet de réhabilitation et de restructuration, et tout dépend un peu de l'ARS, donc...
Et cet hôpital à quel âge déjà ?
Oh là là, alors la première partie de l'hôpital date de 1890, donc on remonte à très très longtemps. Et puis il a été restructuré, on voit bien hein, quand on est devant l'hôpital les différentes phases. La dernière c'est 1970, hein, la dernière opération. Mais il y a beaucoup de choses qui ont évolué et c'est vrai que maintenant... Il est plus aux normes et ça pose de gros problèmes de fonctionnement. On a juste un projet qui est maintenant qui date de 6 ans et on essaye de le faire avancer. Ce projet il est prêt, les efforts financiers ont été faits, les efforts de fonctionnement aussi qui ont été chers en termes de personnel. Enfin, cher, hein, je veux dire, parce qu'on a perdu beaucoup de personnel pour faire des économies, et ça, c'est toujours gravissime. Voilà, tout est prêt, le bouclage financier est prêt, il s'agit de que l'ARS dise « ok ». Donc, on sera en santé, là, elle peut quelque chose, j'espère. Donc,
vous attendez un soutien.
J'espère, oui, j'espère.
Où s'en est l'organisation du grand débat national ?
Elle est en fin d'organisation, on est en train de valider le kit qui va être donné aux maires, aux associations.
Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé.
À tous ceux qui veulent faire participer leur public. Hein. On a des demandes, par exemple, de grandes associations caritatives. On a les demandes de maires, évidemment, certains syndicats, éventuellement, s'ils le souhaitent. Donc, on finalise les documents qui permettent de donner un peu d'informations, de contexte, même local, avec des chiffres sur les départements, combien d'habitants, etc., pour que les gens puissent s'approprier de ces données. Et puis... lundi, il y aura la présentation de la façon dont va se passer le débat. Ce sera une présentation probablement par le Premier ministre. Je ne sais pas, je ne sais pas exactement qui sera autour de lui. Donc voilà, mais il y aura une présentation définitive ce week-end ou lundi au plus tard. Et puis ensuite, on diffusera tout le matériel à tous ceux qui veulent s'en servir et on laissera le débat s'organiser. On essaiera de rendre transparent toute la matière qu'on va recueillir. Puis il va y avoir des gens qui vont être en charge de travailler ce matériau, ces propositions, ces thèmes, afin de les faire émerger et qu'à la fin, on ait suffisamment de matière pour prendre des décisions et voir si des mesures ou des lois ou des changements peuvent être proposés aux Français à l'issue de ce grand débat.
On sait qui va le présider ?
Moi, je ne le sais pas encore. Voilà. Mais parce que aujourd'hui, j'étais en route, donc peut-être que ça a été décidé, mais moi, je ne le sais pas.
Merci.
Vous avez rencontré les Gilets jaunes, excusez-moi.
Oui.
À Saint-Gély-d'Apcher.
Oui.
Qu'a été la teneur de leurs revendications et qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement ? C'était quoi vos échanges ?
C'était vraiment extrêmement intéressant, extrêmement touchant, parce qu'en réalité, ils ont fait émerger des problèmes. Qui sont des problèmes anciens de la société française vis-à-vis de l'accès à la formation, de la façon dont l'école traite les enfants, de l'accès à la santé. Donc en fait, c'est pas tant qu'ils s'opposent à des réformes, c'est qu'en fait, ils ont exprimé un ras-le-bol d'être empêchés dans leur vie, dans leur quotidien, de ne pas être capables d'être maîtres de leur destin à cause des mauvaises organisations, de la façon dont est organisé l'État, de ne pas savoir à qui s'adresser, d'avoir souvent des portes fermées. Et en réalité, ce constat-là, c'est un constat qui a aussi été fait par le gouvernement en arrivant. Et en réalité, beaucoup des réformes que nous proposons, voire des réformes qu'on a déjà faites sur la formation professionnelle, elles répondent déjà aux demandes des personnes qui étaient là. Et donc, ce qui m'a touchée, c'est de voir à quel point nous, on est en phase avec beaucoup de choses qui sont demandées. Il y en a même qu'on a faites, qu'on a fait voter.
Qu'est-ce qui bloque,
personne ne le sait. Non, mais personne. Alors d'abord, la mise en œuvre, parce que la mise en œuvre, elle est longue. En réalité, entre un moment où vous votez une loi sur la formation professionnelle et le moment où ces formations s'organisent, même si vous y mettez 15 milliards, il faut quand même le temps que ça s'organise. Et le moment où Pôle emploi va proposer vraiment la formation qualifiante à la personne qui le demande, eh ben, c'est pas juste après le vote de la loi. En réalité, c'est un délai incompressible qui fait que les Français, dans une impatience légitime, ne comprennent pas ce qu'on fait. Parce qu'on ne les touche pas encore dans leur quotidien. Mais en réalité, il y a énormément de sujets sur la santé, l'organisation des soins, où en fait, on est déjà en train d'essayer de réparer, de répondre à des revendications. Après, il y a des revendications beaucoup plus larges sur l'ISF, il faut prendre de l'argent aux grosses sociétés, etc.
L'évasion fiscale.
L'évasion fiscale, mais tout le monde est d'accord. Je ne vais pas vous dire je veux pas lutter contre l'évasion fiscale. C'est une évidence qu'il faut lutter. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des revendications d'une personne, en fait, une seule personne très politique et très macro, mais la plupart des gens que j'ai rencontrés, ils m'ont parlé de leur quotidien sur lequel, en réalité, on est en phase et on travaille.
Sortir de la gouvernance verticale, renationaliser les autoroutes, la poste et tous les services publics, instaurer un jour férié en mémoire des victimes de la répression, remplacer les juges et les procureurs corrompus, promulgation des lois par les citoyens eux-mêmes, augmentation des retraites, pas de retraite en dessous de 1500 euros, 14, augmentation des aides financières aux étudiants pour l'installation, la mobilité et la culture, 15, suppression des privilèges, entre parenthèses, salaire après mandat, emploi fictif, indemnité, contrôle des notes de frais des élus par les citoyens, 17, annulation du projet de loi du biocarburant à l'huile de palme, super, gaz de schiste OGM, création d'une assemblée citoyenne.
Sur cette deuxième partie.
Oui, c'est une super association. Ouais. Vous l'avez vu ?
Mais justement, vous êtes confrontés, vous avez vu que les gens étaient confrontés à la mobilité parce qu'il manque des transports en commun, les problèmes les gens qui n'ont pas de voiture ne bougent pas, les problèmes d'administratif, c'est-à-dire de pas d'accès, de ne pas savoir remplir les papiers, des choses comme ça. Donc, alors les Gilets jaunes ont des revendications, mais on retombe sur ce. On est toujours dans ce cas. Oui, et est-ce qu'à Paris, est-ce que dans les ministères, est-ce qu'on se rend compte parfois de ce. Voilà, de cette dichotomie entre la vie dans la capitale et dans les territoires ruraux comme en Cévennes, par exemple.
En réalité, il faut arrêter de penser qu'on est quand même déconnecté. D'abord, la plupart des ministres sont des gens de la société civile qui n'étaient pas ministres il y a un an et demi, qui étaient des gens, des citoyens, en réalité. Ouais. Hein, donc, moi, j'ai passé ma vie à l'hôpital. Je sais ce que c'est que l'hôpital public. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas aussi déconnecté que vous le pensez. Par contre, ce qui est frappant, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes qui dépendent pas vraiment de l'État. En réalité, les transports, les routes, c'est les régions qui sont en charge. Les transports en commun, c'est pas l'État. Ça a été décentralisé aux régions. Il y a plein de politiques, comme la politique sociale, par exemple, qui a été décentralisée au département. Mmh. Et en réalité, dès que ça marche pas, on se tourne vers l'État. Mais l'État n'est pas seul. Donc,
L'État réduit aussi les crédits.
Non. Mais en fait, non. Contrairement, alors l'État a réduit les crédits, effectivement, par exemple, des mairies ou des collectivités dans le quinquennat précédent, mais ce quinquennat-là, nous n'avons réduit aucun crédit, aucun. Et donc, d'ailleurs, les maires l'ont dit. Les maires qui étaient à côté de moi l'ont dit.
Département, région, ils peuvent le dire aussi ?
Oui, ils peuvent le dire aussi. Il n'y a aucune réduction de crédit, madame la préfète.
Tout à fait,
mais après, ils ont crié avant d'avoir mal, peut-être, mais ils n'ont aucune réduction de crédit. Ce que je veux dire, c'est que là, par exemple, cette association, elle est subventionnée par le conseil départemental qui fait un super boulot. Il crée du lien. Et moi, je veux rendre hommage, si vous m'autorisez, rendre hommage quand même au tissu associatif dans notre pays, aux bénévoles, au tissu associatif qui font un boulot du quotidien extraordinaire. Ils tiennent la main des gens. Parce que l'État, il ne peut jamais tenir la main des gens. Il peut penser des politiques pour rendre la vie plus facile. Et on voit bien qu'on a quand même des politiques qui rendent la vie compliquée. parce que l'accès au droit est compliqué, etc. Donc on doit simplifier. Mais le dernier kilomètre pour toucher chacun dans sa maison, dans son quartier, dans sa ville, ça ne peut pas être l'État. C'est forcément le tissu associatif, c'est forcément les collectivités, les mairies, les conseils départementaux. Et donc on doit travailler tous ensemble pour remettre ce lien social. Voilà. Merci beaucoup.
Le SMIC à 1500 euros net, bon, ça c'est pas gagné. Réquisition des logements vides pour les sans-logis et les mal-logés, bien sûr. Impôts que les grosses sociétés payent gros. Rappel des troupes à l'étranger. Alors ça, on va gagner du pognon. Fin de l'ingérence militaire. Ah, fin du CICE. Utilisation de cet argent pour le lancement de la voiture à hydrogène. C'est le moteur Pantone, qui est véritablement écolo, contrairement à la voiture électrique. Sortie de l'Union européenne. Mettre en place le RIC ou RIP. Pas de prélèvement à la source. Favoriser les petits commerces des villages et centres-villes. Là, alors là, c'est pas gagné. Cesser de nous faire chier à nous faire des shitotests et des contrôles alcoolémiques. C'est pas marqué. Et voilà. Arrêt immédiat de la numération des démarches administratives.
Non, la numérisation.
Numérisation. Voilà. C'est quoi la numérisation?
Faire ta carte grise 6 mois sur Internet.
Ah oui, voilà. Oui, voilà, oui,
c'est toutes les démarches administratives faites par Internet.
Et ceci dit, à part ça, tout va très bien, Madame la Marquise.
On voit bien que les associations aujourd'hui croulent sous des difficultés multiples pour fonctionner. Donc, oui.
Alors, pourquoi avoir supprimé les contrats aidés?
Parce qu'aujourd'hui, les contrats aidés étaient dans une logique de... En fait, historiquement, les contrats aidés étaient faits pour que des personnes précaires puissent rentrer dans le champ du travail, dans la vie professionnelle, puissent accéder à des formations et puissent trouver un emploi pérenne. Et ça a été progressivement détourné en emploi aidé pour le tissu associatif, avec en réalité des personnes qui étaient encore plus précarisées. C'est-à-dire qu'en fait, on subventionnait des emplois précaires et des CDD. Et donc, à l'arrivée, l'objectif qui était de mettre le pied à l'étrier à des personnes, c'est vrai que ça a aidé les associations, mais en réalité, on précarisait réellement toute une partie de la population qui ne rentrait jamais dans le monde du travail réel, mais CDI fixe. Et en fait, toutes les personnes pour lesquelles vous vous battez, qui ont des emplois précaires à mi-temps, en réalité, on vous subventionnait cette façon de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on s'est dit, il faut qu'on inverse la logique, il faut qu'on arrive à avoir des emplois aidés plus formateurs, qui soient réellement une voie de sortie pour les gens, mais ça ne peut pas être uniquement l'État qui subventionne du travail précarisant la population alors qu'on lutte contre ça.
Parce qu'aujourd'hui, dans la pratique, ce qui se passe, c'est que nous avons un salarié en moins qui représentait un plein temps. Ça a été enlevé, mais la masse de travail reste la même. Et du coup, on se met à mal au niveau des demandes de subventions et au niveau de tout notre fonctionnement. Et on est peut-être menacé de disparaître à terme.
C'est vrai. Si vous voulez, vu des associations et vu des employeurs, c'est une vraie perte, les emplois aidés. Mais en réalité, l'État, par cette procédure, créer de la précarité pour aider des associations qui luttent contre la précarité. Il y avait un truc un peu dingue derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, aujourd'hui, il y a quand même 100 000 emplois aidés qui n'ont pas été utilisés en 2018. Plus de 100 000 qui sont toujours vacants. Donc, il y a un problème aussi d'offre et la demande. Donc, on a réservé les emplois aidés au tissu associatif de la cohésion sociale, aux petites communes rurales qui ont des difficultés à avoir le budget pour employer. Et en fait, on a réduit le nombre d'employeurs possibles des contrats aidés en le réservant aux associations, aux structures comme vous, ou aux DOM aussi, au département d'outre-mer. C'est-à-dire à vraiment des gens qui ne peuvent pas fonctionner sans les emplois aidés, mais on a réduit le nombre pour éviter de créer nous-mêmes une précarité de l'emploi. C'était ça la logique.
Et voilà, c'est la fin de ce créneau libre consacré aux Gilets jaunes. Alors, les rendez-vous se font tous les samedis en début d'après-midi, 14h. au rond-point de l'ancienne gare à Florac. Et vu qu'il y a un rassemblement tous les samedis, nous allons peut-être attaquer une saga à Radio Bartas. Donc selon ce qu'ont à dire les Gilets jaunes, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. À bientôt.